France Musique. Musicopolis. Verdi, 1871, Le Caire. En mars 1870, Verdi a 57 ans. Il est l'auteur de 25 opéras qui sont représentés partout en Occident, de New York à Saint-Pétersbourg. Son dernier ouvrage, Don Carlos, a été composé pour l'Opéra de Paris et créé il y a juste 3 ans. Il est amené à venir assez souvent dans la capitale française, en particulier pour y assister à ses propres opéras montés au théâtre italien, dernièrement notamment Rigoletto ou La Traviata. Par deux fois déjà, Verdi a refusé des offres venant d'Égypte. D'abord, il a refusé d'écrire un hymne pour l'inauguration de l'Opéra du Caire, puis il a refusé d'écrire un opéra sur un sujet antique égyptien. C'est Camille Dulocle qui lui avait proposé l'opéra au nom du Khedive Ismail Pacha, le vice-roi. Camille Dulocle est le directeur de l'Opéra Comique et le librettiste de Don Carlos. Dulocle et Verdi sont devenus amis à l'occasion de la longue élaboration de cet opéra en 1867. Le français revient à la charge au printemps 1870. Cette fois-ci, il joint à la proposition un synopsis d'opéra sur 4 pages que lui a envoyé Auguste Mariette, égyptologue français et présentement directeur du service de conservation des antiquités de l'Égypte au Caire. Dans la lettre qui accompagne le synopsis de l'opéra antique égyptien, Dulocle, sans préciser qui en est l'auteur, écrit à Verdi que le souverain n'y serait pas étranger et qu'il serait prêt à sacrifier la plus belle de ses pyramides pour concrétiser son projet. Dulocle connaît bien son Verdi. Il joint une lettre de Mariette qui relate à quel point son Altesse est vivement contrariée du refus du signor Verdi. Et en post-scriptum, 2 phrases diaboliques, un dernier mot. Si le signor Verdi n'accepte pas, son Altesse vous prie de frapper à une autre porte. Elle pense à Gounod et aussi à Wagner.
Oh.
26 mai 1870, après avoir réfléchi à la proposition du Khédive d'Égypte, transmise par son ami Dulocle, Verdi répond « J'ai lu le scénario égyptien, il est bien fait. C'est splendide de mise en scène. Je vois déjà deux ou trois situations, sinon très nouvelles, du moins certainement très belles. Mais qui l'a fait? J'y devine une main experte qui connaît très bien le théâtre. J'attendrai maintenant les conditions pécuniaires du Caire, puis je déciderai. » Le 2 juin, Verdi fixe lui-même ses conditions dans une lettre à Dulocle. Le livret devra être en italien. Verdi rémunérera lui-même le librettiste et il enverra au Caire à ses frais un chef pour monter et diriger l'opéra. Il enverra en Égypte un exemplaire de la partition. Il abandonnera ses droits sur la musique et le livret au royaume d'Égypte pour les représentations locales, mais il les conservera pour tous les autres pays. Pour cela, il recevra 150 000 francs, payable auprès de la banque Rothschild à Paris lors de la remise de la partition. Verdi a sa réponse par télégramme 3 jours plus tard. Le Khédive accepte. En juin 1870, Verdi invite Camille Dulocle à venir chez lui à la campagne à Sant'Agata pour travailler au livret d'Aïda, c'est-à-dire transformer le synopsis de Mariette en un véritable canevas scénique et écrire des dialogues. Ensuite, la traduction en italien et la versification seront assurées par le poète italien Antonio Ghislanzoni. Sant'Agata est la maison que Verdi a achetée en 1851, l'année de Rigoletto, tout près de Busetto et à une dizaine de kilomètres de Roncole, son petit village de naissance. Nous sommes dans la plaine du Po, à 20 kilomètres de Crémone et à moins de 100 kilomètres de Milan, où le jeune Verdi a fait ses études et où il a commencé sa carrière de compositeur d'opéra. Lorsqu'il est à Sant'Agata, surtout depuis une quinzaine d'années qu'il compose moins, Verdi prend très à cœur sa vie de propriétaire terrien. Il s'occupe de la ferme, qu'il a beaucoup agrandie, il organise, semise et récolte. Depuis quelques années qu'il est un personnage connu, depuis qu'il a eu un rôle politique dans l'unification de l'Italie, il s'est aussi forgé une image d'homme de son sol, d'Italien authentique. Questo quella per me pari sono a quant'altri intorno, intorno mi vedo, del mio cuore l'impero non ceda, meglio una che ad altra realtà, la costoro avvenenza e quel dono di che il fato le infiora la vita, se si questa mi torna gratuita.
tradita, forse un'altra, forse un'altra. Domani lo sarà un'altra, forse un'altra. Domani lo sarà.
Au mois de juillet 1870, alors qu'il n'a même pas encore signé son contrat, Verdi travaille sur Aïda. Il écrit à son éditeur Giulio Ricordi qu'il lit sans cesse le scénario. À un ami d'enfance, il déclare « Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans « Tu écriras pour le Caire », je l'aurais traité de cinglé. Mais maintenant, je constate que c'est moi le cinglé. » Verdi connaît la part prise par Auguste Mariette dans l'élaboration du scénario. Il sait qu'il doit respecter la couleur locale égyptienne et il prend ses éléments très à cœur. Il va commencer par se renseigner sur l'histoire de l'Égypte. Il lit Hérodote, il demande qu'on lui fasse un rapport complet sur la région et son ancienne religion. Il apprend tout sur la vie après la mort, la fonction des momies et la transmigration des âmes. Il s'intéresse particulièrement au mystère d'Isis, faisant remarquer à Ricordi « Ce serait un autre sujet, mais quel sujet et quel spectacle !» Bien sûr, la question de la musique égyptienne intéresse beaucoup Verdi. À plusieurs reprises, au cours du mois de juillet 1870, on le découvre interrogeant Mariette sur les coutumes et les cérémonies de l'Égypte ancienne. L'égyptologue indique par exemple sur la danse sacrée des Égyptiens. Cette danse s'exécutait en robe longue et sur un rythme lent et solennel. La musique qui l'accompagnait était probablement une sorte de plein chant, formant basse avec un chant très aigu en dessus, exécuté par de jeunes soprani, garçons. Les instruments qui accompagnaient ces danses sont des harpes à 24 cordes, des doubles flûtes, des trompettes, des tympanons ou tambours, des castagnettes énormes, crotales et des cymbales. Verdi a besoin de savoir également s'il existe bien des prêtresses d'Isis, si la charge n'est pas réservée aux hommes et en quel nombre il peut faire chanter les prêtres. Réponse de Mariette, quel qu'en soit le nombre, vous serez toujours dans le vraisemblable.
«
Pour trouver des réponses à ces questions sur l'Égypte ancienne, Verdi lit la grande Histoire de la musique de François-Joseph Fétis. Il y trouve la mention d'une flûte qui l'intéresse particulièrement. Des années plus tard, pourtant, il déclare à un de ses amis « Je déteste ce charlatan de Fétis, et ce n'est pas parce qu'il a dit le plus grand mal de moi, mais parce qu'un jour il m'a fait courir au musée égyptien de Florence. T'en souviens-tu, nous y sommes allés ensemble. » Pour examiner une flûte antique sur laquelle il prétendait, dans son Histoire de la musique, avoir trouvé le système de la musique ancienne égyptienne. Système semblable au nôtre, à part la tonalité de l'instrument. Le misérable ! Cette flûte n'était qu'un pipeau à quatre trous, comme en ont nos bergers. C'est ainsi qu'on fait l'histoire, et les imbéciles y croient. À propos de la danse des prêtresses au premier acte d'Aïda, Ernest Reyer écrit « Un motif turc qu'on lui a envoyé de Constantinople et une mélodie indigène qui accompagne sur la flûte les évolutions des derviches tourneurs ont été à M. Verdi d'un précieux secours. Et j'ajouterai que ces deux thèmes, qui ont beaucoup de caractère, mais qui comportent quelques mesures seulement, acquièrent dans la partition une importance réelle par la façon habile dont ils sont traités, par l'instrumentation et la disposition des voix. Je les ai écoutées avec ravissement, et pourtant mon oreille n'en est plus à subir le charme de ces douces surprises que font éprouver les mélodies d'Orient à ceux qui les entendent pour la première fois. » Si Verdi n'a pas eu de chance dans sa recherche sur les flûtes égyptiennes, il essaye de se rattraper avec les trompettes. un instrument qui était utilisé dans l'Égypte ancienne pour des cérémonies religieuses aussi bien que militaires. D'après Plutarque, leur son rappelait le cri de l'âne. On en trouve des représentations sur les murs des tombes et un exemplaire est conservé au musée du Louvre. Exemplaire aujourd'hui controversé, mais qui a apparemment servi de modèle. C'est pour s'y conformer que le facteur milanais Giuseppe Pellitti a été chargé par Verdi de fabriquer 6 trompettes droites de forme égyptienne antique. Selon Ernest Reyer, qui assiste à la première de l'opéra, au deuxième acte, dans la fameuse scène du triomphe, en tête des troupes marchent 2 sonneurs de trompettes, instruments munis de pistons mais de forme antique. Ces trompettes, longues et minces, ont été fabriquées à Milan et envoyées au Caire par M. Verdi lui-même. La marche du deuxième acte d'Aïda, l'orchestre de l'Opéra de Rome, dirigé par Georg Solti, en 1961. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Éric Lancien pour la réalisation et Nadège Antonini pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.